Avec la pandémie au printemps, on a fini par s'y perdre un petit peu. Il y avait plusieurs courses à la chefferie qui étaient simultanées. Hein? Celle du Parti conservateur au fédéral. Bon, ça s'est soldé par une victoire d'Erin O'Toole, qui était le candidat de Richard Martel. Vous n'avez entendu parler en masse, je pense. Là, tout le monde est pas mal au courant. Okay. Je pense que oui. Également, il y a eu celle du Parti libéral qui a fini en queue de poisson. C'est-à-dire que Dominique Anglade affrontait Alexandre Cusson, qui a abandonné parce que la course était rendue trop longue en raison de la pandémie. Qui manquait de moyens financiers, tout simplement. Il lâche son poste de maire de Drummondville pour faire la course, prévoit son affaire, puis finalement, pandémie arrive. Ça traîne, ça finit plus, puis il dit, regarde, je suis pas indépendant de fortune, non. Moi, fait que couronnement pis, de Dominique Anglade.
Puis je trouve que ça les a servis, parce que Dominique Anglade, ça lui a permis de rapidement pouvoir agir à titre d'opposition officielle dans les mois qui ont suivi là, les premières semaines de COVID. Fait que ça a permis quand même d'avoir quelqu'un en poste pour répondre aux gestes de François Legault, parce que François Legault se retrouvait tout seul. Il y avait personne devant lui, ni au Parti québécois, ni au Parti libéral. Donc ça, je pense que dans la décision d'Alexandre Cusson, ça a peut-être pesé aussi d'avoir quelqu'un qui est présent, qui est chef d'opposition. C'est quand même important, là.
Et celle du Parti québécois, comme tu y faisais référence, c'est toujours pas fini. Il reste encore quelques semaines. On va aller rejoindre d'ailleurs un des candidats à la chefferie, Paul Saint-Pierre Plamondon, qui est de passage dans la région. Bonjour.
Bonjour.
Comment allez-vous?
Ça va très bien, vous?
Ah, dites-moi, c'est bien long.
Êtes-vous tanné? Tu parles de mon nom de famille?
Non.
Ça aussi.
Ça aussi, mais la course, c'est interminable.
Oh mon Dieu, c'est un marathon, mais tu sais, si, imaginez, là, moi, j'ai laissé mon emploi d'avocat. J'ai quitté mon emploi en janvier. Et jamais on aurait pu deviner que la course aurait été suspendue. Puis même si elle a été suspendue, nous, on a continué d'être actifs là, sur les médias sociaux, surtout pendant la crise COVID. Tu avais Justin Trudeau qui n'écoutait pas le Québec ni pour nos aéroports, ni pour les frontières, ni pour l'armée. Fallait intervenir. Donc, c'est vraiment un marathon. Mais en même temps, là, on a le résultat dans 3 semaines. Ma campagne a monté en termes d'intention de vote puis de soutien. Ma campagne a le vent dans les voiles puis est en montée. Donc, le résultat risque d'être super intéressant. Il nous reste 3 semaines, c'est le dernier sprint.
Est-ce que c'est ça, justement, qui vous a gardé vraiment là les deux pieds dans la course? Parce que je faisais référence à Alexandre Cusson au Parti libéral qui, lui, à un moment donné, a dit « Regarde, je suis plus capable. Là. J'ai plus d'argent, c'est trop long. » Puis peut-être que, justement, il voyait peut-être pas des montées comme vous dans les intentions de vote, mais vous avez dû y penser, de dire « Écoutez, j'arriverai plus. »
Ouais, ben en fait, c'est vrai que ça joue quand on est en montée. Comme là, si on regarde le nombre de donateurs puis les dons, c'est moi qui est premier, mais de loin premier. Donc, quand on voit qu'on est sur une courbe ascendante, c'est sûr qu'on voit les choses différemment puis on a le goût de continuer. Il y a un sacrifice à faire, mais en même temps, c'est pas le premier sacrifice que je fais. Là, j'ai été candidat en 2016. J'ai fait une autre tournée du Québec dans Oser repenser le PQ. J'ai représenté le Parti québécois sur toutes les tribunes pendant les élections de 2018, là, dans les débats de RDI, d'LCN. Donc, je suis pas à un sacrifice prêt pour la cause de l'indépendance. Puis c'est un peu ça la force du Parti québécois, c'est que c'est pas un parti affairiste. Les gens que ça regroupe au Parti québécois, c'est des gens qui veulent un pays puis qui rêvent à une meilleure société. On n'est pas là pour faire un gain à court terme ou sur une base de carrière. Donc, ça rend le parti plus solide, plus résilient quand il y a des difficultés parce que les gens sont là pour des idées, sont pas là pour... des intérêts.
Il n'y a pas de formule idéale, on s'entend, là, mais quand on entend qu'on veut du sang neuf en politique, on dirait que c'est un frein d'avoir du sang neuf en politique que justement d'avoir des courses interminables, puis les outsiders, excusez-moi l'expression, sont désavantagés comparativement à ceux qui ont un siège à l'Assemblée nationale, qui continuent à recevoir un salaire, comme votre opposant Sylvain Godreau dans cette course-là, le député de Jonquière.
C'est sûr qu'il y a un avantage à être député dans cette course-là d'une certaine manière parce que dans son comté, on a de la facilité à aller chercher des dons, on a du personnel, on a un salaire. Mais si on regarde quand même la tangente de cette course-ci, il y a quand même 3 outsiders pour 1 député. Et on regarde les courbes, on regarde la tendance, là, puis les gens de l'extérieur ont du succès en ce moment, puis ça monte. Donc, il n'y a pas de garantie pour autant. C'est pas parce qu'on est député que les dés sont joués. Surtout que, comme vous dites, là, les gens veulent du changement. Puis quand on entend parler du Parti québécois particulièrement, ce que les gens disent, c'est là, il est temps d'avoir du renouveau. Là, on peut pas avoir toujours la même recette. On s'attend à quelque chose de neuf, puis de rafraîchissant, puis d'intéressant. Donc là, ça rend la course très axée sur... Qu'est-ce qui est l'avenir pour le Parti québécois? Qui est capable d'additionner, de rassembler? Qui, donc, incarne le changement que la population veut? Mais il faut le dire, des fois, les gens ne suivent pas ça de près. Là. Les membres du Parti québécois ont fait un congrès de refondation à la fin 2019 puis ont demandé du changement. Donc, ça va être très intéressant de voir si le résultat va aller dans ce sens-là, c'est-à-dire marqué par un nouveau chef, qu'il y a un nouveau cycle au Parti québécois, un vent de changement. Moi, je pense que c'est ça qu'il faut envoyer comme signal.
Mais là, de ce que je comprends, là, si on veut différencier les courses, là, on est obligé d'être membre du Parti québécois pour voter. Il n'y a pas une nouvelle façon aussi de voter, là. J'ai cru comprendre que ça avait été modifié pour le Parti québécois.
Oui, ça a été modifié. Donc, il y avait la possibilité d'acheter un statut de non-membre sympathisant pour 5 $ Malheureusement, là, on est à 3 semaines du vote, donc la période pour s'inscrire comme sympathisant, elle est terminée. Tout ce qui reste d'ici au 18 septembre, c'est pour les membres qui n'ont pas renouvelé leur carte. Là, ils peuvent toujours le faire.
Okay.
Mais oui, on a ouvert parce qu'on s'est dit, c'est les membres qui ont voté ça là, au congrès de refondation, justement. On s'est dit, tu sais, des fois, les gens ont des emplois qui permettent pas de s'afficher politiquement, qui ne permettent pas officiellement d'être dans un parti, mais ils aimeraient ça participer quand même. Donc, ce statut de sympathisant-là a permis à des milliers de personnes de pouvoir voter, mais sans avoir le trouble de s'afficher et d'expliquer à son employeur, etc. Là, donc, c'était une bonne initiative. Là, ça a quand même été utile.
Vous parliez tantôt des courbes qui sont bonnes pour vous, mais dans une région comme le Saguenay-Lac-Saint-Jean, on voit que Sylvain Godreau est excessivement fort pour les membres du Parti québécois particulièrement. Quand vous venez ici, ça ne doit pas être facile.
Ben, ça va être intéressant. Donc, en effet, je suis premier dans le financement, premier dans les médias sociaux en termes de couverture, premier dans la couverture des médias également. Et j'ai le vent dans les voiles, je monte. Mais c'est vrai que Sylvain, dans son comté, il a un taux d'appui, je pense que c'est 75% des gens qui votent Sylvain Godreau. Maintenant, autant je reconnais que Sylvain est un excellent député, c'est un militant de la première heure, là, c'est le choix d'un chef, puis c'est l'avenir du Parti québécois qui est à la croisée des chemins. C'est ça qui se décide. Donc, le choix du chef peut pas se faire uniquement en fonction du lieu de naissance ou du lieu de résidence. Là. Puis, tu sais, à ce compte-là, ma femme, Alexandra Tremblay, puis sa famille vient de Jonquière, mais en tout cas, moi, c'est parce que c'est pas ça le critère de décision. Là. Le critère de décision, c'est on a un parti qui est à rebâtir. On a eu une élection extrêmement difficile en 2018. Soit on continue sur une pente descendante avec les conséquences qu'on devra vivre, ou soit on rebondit. Donc la question, c'est quel chef va nous permettre de rebondir? Quel chef est capable de vendre des cartes de membres, rassembler, aller chercher du financement, créer de l'enthousiasme? C'est ça la question. Puis quand je m'en viens à Chicoutimi, puis ensuite à Roberval, ben moi, je dis aux membres, venez me rencontrer, puis faites votre évaluation, faites le choix le plus sérieusement du monde, parce que ce choix-là va avoir des conséquences très sérieuses sur la suite des choses au Parti québécois. Donc, il faut que chaque candidat soit entendu, puis il faut que la décision se prenne sur tous les critères pertinents, parce que c'est un choix déterminant.
Quand on voit les sondages pour l'appui au premier ministre François Legault, il s'en sort très, très bien. Puis en fin de semaine dernière, il y avait des réunions chez Québec solidaire où il y a des membres qui ont dit à Manon Massé, à Gabriel Nadeau-Dubois, vous êtes complaisant avec François Legault. Puis là, il était comme un petit peu mal de tout ça. C'est pas facile non plus hein, d'être dans un contexte de pandémie où tout le monde improvise un petit peu. On sait pas ce qui s'en vient. On fait ce qui est le mieux qu'on pense. Je parle du provincial. Ça pourrait être la même chose pour le fédéral. Comment vous réussiriez à agir dans ce contexte-là?
Bien, chaque chose en son temps. C'est qu'on ne peut pas demander aux gens, pendant la crise, de faire des bilans de la crise. C'est pas le bon moment. Là, on est peut-être devant une deuxième vague, peut-être pas. Mais tant qu'on n'est pas sorti de cette crise-là, c'est normal que les gens ne veuillent pas entendre parler de bilan. Puis pourtant, on est un des endroits au monde où il y aura eu le plus de décès pour la population, le per capita. Donc, à un moment donné, il va falloir se poser la question, qu'est-ce qui est arrivé dans les CHSLD? Pourquoi certains aspects, notre gestion de crise a donné ces résultats-là? Mais là, c'est pas le temps. Puis c'est normal que, tant qu'il faut protéger la population, que nos efforts soient dans cette direction-là. Il y aura un temps pour les bilans. Puis souvenez-vous de Lucien Bouchard. Pendant la crise du verglas, sa popularité était telle, c'était beaucoup plus élevé que François Legault en ce moment, là, c'était 90% d'approbation. Mais rendu aux élections, quelques années plus tard, ça a été une élection quand même pas facile face à Jean Charest qui était allé chercher plus de votes que Lucien Bouchard, bien que le Parti québécois ait remporté en raison là, de l'emplacement des votes. Mais tout ça pour dire que dans la politique, on a souvent vu des gouvernements très, très populaires pendant la crise. C'est normal parce que tous les efforts de tout le monde, c'est protéger la population. Mais une fois que la crise se termine, ça veut rien dire pour les élections qui suivent. Au contraire, c'est à ce moment-là que c'est approprié de faire des bilans. Mais là, pour l'instant, moi, je garde un ton qui est constructif. Puis, la priorité, c'est de protéger notre monde, s'assurer qu'on prend les bonnes décisions au fur et à mesure.
Maintenant, vous êtes dans la région, c'est un incontournable. Ce matin, mes collègues ont sorti un sondage commandé, il faut le dire, par GNL Québec à la firme Segma, où on voit un appui très fort des gens de la région pour le projet de GNL Québec. Il y a même plus de 60 % des gens qui considèrent que l'avenir du Saguenay-Lac-Saint-Jean passe par ce projet-là. Votre opposant, Sylvain Godreau, à la chefferie du PQ, est contre le projet. Qu'en est-il de Paul-Saint-Pierre Plamondon?
J'ai la même position. Je pense que Sylvain a raison. Puis d'ailleurs, honnêtement, c'est mon adversaire, mais je salue sa position parce que c'est dans sa région, puis ça prend du courage pour dire ce qu'il faut dire, à savoir que l'appui à GNL Québec démontre à quel point il n'y a pas de plan économique régional sous des gouvernements libéraux puis caquistes. C'est que là, on s'accroche à GNL parce qu'on se dit « on a un projet, puis ça va créer des emplois ». Mais si vraiment il y avait un gouvernement qui a à cœur les régions, là, des projets qu'on peut implanter régionalement, qui créeraient des meilleurs emplois que ça, mais qui surtout seraient des projets d'avenir, là, avec des technologies vertes, des choses qui vont créer des jobs durables pour des décennies, il y en aurait, il y en a plein. Sauf qu'on fait le choix de ne pas donner les outils de développement économique régionaux. Et quand il passe un projet, mais c'est normal un peu que la population se dise, ben là, on a un projet, on va le faire. Mais moi, je pense qu'il y a beaucoup d'autres secteurs dans lesquels on peut développer des emplois de qualité, de meilleurs emplois, mais il faut que le gouvernement soit commis à faire atterrir ces projets-là. Et là, ce qu'on a, c'est un gouvernement Legault qui semble avoir ses entrées avec GNL. Là, je sais pas c'est quoi la nature des liens, mais clairement, ça semble être un projet chouchou. Il y a une entrée spéciale là, au bureau du premier ministre, mais ça rend pas le projet plus responsable sur le plan environnemental, puis ça fait pas de ce projet-là un projet d'avenir pour le Saguenay-Lac-Saint-Jean. Moi, je vois pas pourquoi on devrait s'accrocher à ce projet-là, alors que des emplois dans le secteur de l'économie verte, si le gouvernement décide d'investir, on va en créer plein. Puis je soutiens la population qui, quand elle dit, surtout avec l'aluminium qui est mal défendu par le fédéral, je comprends les gens dire on veut des emplois de qualité, mais c'est parce que le gouvernement du Québec se doit de livrer la marchandise puis proposer des projets. Soutenir des industries d'avenir qui s'établissent localement. Mais là, c'est pas ça qu'on fait, puis on s'accroche à ce projet-là. Moi, je vous le dis, c'est pas un projet responsable sur le plan environnemental, puis c'est pas un projet d'avenir non plus.
Mais dans les chiffres, tant de sondages-là que du sondage qu'on avait fait faire l'an passé, on voit que les gens sont pas, ils donnent pas une passe gratuite à GNL. Ils veulent avoir des engagements clairs puis des réponses à leurs questions. Puis là, le BAP va commencer, puis on aura des réponses à tout ça. Mais quand on parle d'économie verte, je suis totalement favorable, mais les capitaux privés pour ces projets-là, on dirait qu'ils n'arrivent pas.
Puis c'est là que le gouvernement doit embarquer.
Mais
la caisse de dépôt et de placement. On a plein de leviers qui nous permettent d'avoir les capitaux. C'est pour ça que durant la Révolution tranquille, puis ensuite pendant le Parti québécois, on s'est donné des leviers financiers. Mais là, aujourd'hui, ces organismes-là ne remplissent plus leur mission. Ils font juste servir la rentabilité. Ils utilisent les paradis fiscaux. Là, c'est complètement hors de contrôle. Alors que on les a, les leviers, pour amener du capital en région dans des projets d'avenir. C'est juste que ça prend un gouvernement qui a du leadership. Puis c'est là qu'il faut remettre en question François Legault quand il nous parle d'économie, parce qu'il se présente toujours comme un expert en économie. Mais vous regarderez sa tentative de projet de loi 61, là, où est-ce qu'il voulait nous passer à la va-vite, là. Tous ces projets, sans que ça passe par les évaluations environnementales, sans que ça passe par les évaluations des autres partis puis de la population. Puis quand on regarde son plan de relance économique, là, on se serait dit en 1980. C'est du béton, là, puis des projets de l'économie d'il y a 30 ans. Puis ça, tous les partis d'opposition s'entendent, là, même les libéraux ont fait une sortie là-dessus il y a quelques jours. Les projets de relance économique sous François Legault, on se serait dit en 1980, on n'investit pas dans ce qui va être payant dans 10 ans. Et donc, oui, on les a, les leviers. Vous avez raison de dire que c'est peut-être pas dans le domaine du capital privé qu'on va trouver nécessairement ces fonds-là, mais on est capable d'un État stratège.
Mais si c'était payant quand même, c'était payant l'économie verte et ça va le devenir. Les privés seraient là. Tu sais, exemple, Rio Tinto, Elysis veulent produire de l'aluminium zéro émission parce que les clients demandent ça. Donc,
mais il y en a des projets qui sont hyper payants. Là, si on pense à Innergex, on a fait un investissement important là-dedans, puis c'est payant, puis c'est rentable. Il y a Nordressa qui a cogné à la porte du gouvernement caquiste. M. Fitzgibbon a dit non. Mais les Américains, eux, par contre, ils trouvaient ça payant, puis ils ont racheté. Donc, des fois, c'est peut-être nous aussi qui manquons de vision, là. C'est que c'est pas que c'est pas payant, c'est qu'on dort un peu lorsqu'on a des compagnies qui ont un fort potentiel. D'ailleurs, c'est un de mes engagements dans cette course-là, c'est de dire, sous ma gouverne, on va ressusciter le programme des gazelles là, qu'on avait fait en 2012. Un programme où est-ce que quand une entreprise qui a le potentiel de devenir un géant dans 10 ans, l'État l'accompagne puis investit, mais en échange, la compagnie s'engage à ne pas utiliser les paradis fiscaux puis à payer ses impôts ici au Québec, puis elle s'engage également à garder son siège social au Québec. Donc, en d'autres mots, si on a une stratégie, on peut développer des champions, mais il faut qu'il y ait un gouvernement qui ait une stratégie. Si notre gouvernement se contente de faire de l'économie comme on le faisait dans les années 80, ben, faut pas se surprendre ensuite qu'il y a juste GNL qui est sur la table comme projet, alors qu'il y en a plein d'autres des possibilités.
Paul-Saint-Pierre Plamondon, bonne visite dans la région. Merci de nous avoir parlé.
Merci infiniment.
Au revoir. Paul-Saint-Pierre Plamondon, qui est candidat à la chefferie du Parti québécois, qui, puis ça, c'est pas une cachette, là. On le voit dans les intentions de vote au général, puis dans les membres, il y a des augmentations. C'est quelqu'un qui s'exprime bien, qui a des idées assez différentes, merci, de ce qu'on entend d'habitude. Mais ce qu'on comprend, c'est que peu importe le chef du Parti québécois, son compte général
mais,
Québec.
Mais je vais te faire une réflexion, OK? Je vais te faire une réflexion bien simple, là. Je suis d'accord avec Paul Saint-Pierre Plamondon puis Sylvain Gaudreau.
Explique-moi.
Mais après que le GNL soit fait. Tu comprends-tu que ben, c'est toujours à nous autres?
Moi, à mon idée, l'un n'empêche pas l'autre.
Mais moi,
parce que là, on a besoin de quoi là? Là
oui.
Pas dans 10 ans.
Oui, c'est là, là.
Faisons ça. Puis pendant les 10 prochaines années, développons d'autres choses. Puis si, ce qu'on nous brandit depuis un bout de temps de dire GNL, ils vont faire ça pendant... quoi, 25 ans de durée de vie, puis après, ils vont sacrer le camp avec une balafre dans le fjord du Saguenay.
Non, ce sera remis.
Ben,
on sera, là, ça va être
on
à l'autre
planifié.
Tu sais, moi, je compare ça à l'achat de ma prochaine voiture. Tu sais, je veux dire, ma blonde, elle veut absolument avoir un char électrique. Elle veut un char électrique. Puis c'est-tu quoi? J'ai dit, t'as raison. Pas elle, l'autre. Parce qu'on est pas prêt. On n'a pas ce qu'il faut. Par contre, je m'engage à m'acheter une voiture moins polluante, mieux améliorée, puis qu'elle soit plus belle.
Mais le problème, c'est que j'ai commencé à regarder des autos électriques il y a 15 ans. Puis là, j'ai dit pas elle, l'autre. Puis là, rendu à l'autre, c'était plus elle encore. Puis là, ben la prochaine, je sais plus là.
Défais pas mon argument.
Non, là, on parle d'hydrogène en masse. Ça va-tu être les branchables ou hydrogène qui va être le mieux?
Mais c'est drôle, quand c'était le temps d'aider à Gaspésie, là, la cimenterie mécaniste,
ça, c'était pas grave.
Ben, pas de problème, hein? C'était pas grave, hein?
Non,
ça, c'était pas grave. Hey, c'est toujours à notre tour.
Parlons-en brièvement avant d'aller rejoindre notre ami Guy Bouchard d'Informaffaires du sondage qui a été commandé. Il faut quand même insister là-dessus, qui a été commandé par GNL Québec auprès de la firme de sondage Segma, une firme régionale, qui nous donne des résultats intéressants. Parce qu'ils sont quand même différents du sondage que nous, on avait commandé presque un an jour pour jour. C'était en octobre 2019, sur la question. La connaissance du projet dans le sondage Le coup de sonde effectué très récemment par Segma, près de 8 répondants sur 10, 77% disent connaître le projet.
Ben, c'est beaucoup, là.
Ben, maudite bonne affaire.
Oh, c'est une bonne chose. Ça veut dire que les gens ne répondent pas à l'aveugle.
Mais ne connaissent pas le projet à 22,1%.
Mm-hmm.
Ces gens-là sont où?
C'est des gens qui ont tout autre cercle d'intérêt que l'actualité ou qui ne s'intéressent pas à ça ou qui, pour leur domaine d'emploi, ça ne les touche pas. Ou...
Ouais, mais là,
j'en connais, moi.
Faut quasiment être enterré 6 pieds sous terre. Là.
J'en connais.
Tu connais des gens qui connaissent pas?
J'en connais.
Tu leur dis GNL Québec, puis c'est des yeux de chevreuil.
Ils connaissent le mot, mais ils savent pas qu'est-ce que ça a comme impact. Ils savent pas qu'est-ce que c'est, puis ils savent pas pourquoi on en parle. Ils savent juste c'est quoi GNL Québec. Ils savent le nom. Mais ça les intéresse pas, ils n'ont pas entendu parler de ça. Pour leur emploi, ça les touche pas. Hey, y a du monde qui vit dans le bulle en passant, là.
Ben là, tu me dis ça, là, puis on dirait que c'est moi qui ai l'impression de vivre dans une bulle.
Non.
Tu me racontes ça, puis j'ai l'impression d'être dans une tour d'ivoire. Non, mais j'ai l'impression d'être très, très loin de la préoccupation de 22,1% des gens du Saguenay-Lac-Saint-Jean.
C'est pas beaucoup, 22, là, Simon, pour un sujet comme GNL, là.
Ben,
c'est
un sur 5.
Ben, c'est pas beaucoup. Hey, y a des sujets que c'est pire que ça,
une personne sur 5 que tu vas voir dans la rue. Tu leur demandes, connaissez-vous GNL Québec?
Oui.
Pas une dissertation.
Simon.
Là. Connaissez-vous?
Simon, on est en
au
élection.
Au moins pour en avoir entendu parler.
Simon, on est en élection 30 jours de temps. Et une semaine avant l'élection, si tu vas faire un vox pop, il y a encore au moins 3 ou 4 personnes sur 10 qui le savent pas. Puis on a été 30 jours
Mais la politique,
jours
ça
élection.
Reste la politique. Là.
30 jours!
Mais la politique, c'est la politique.
Hey, GNL, c'est pire, là.
Maintenant, le niveau d'information sur le projet. Ça,
oui,
je peux comprendre.
Ça, c'est intéressant.
Le niveau d'information, je sais c'est quoi, mais de là m'informer là-dessus, c'est autre chose.
Exact.
Les deux tiers des répondants, 66,6%, se disent informés sur le projet. Ça me chicotait quand même. Parce que souviens-toi, il y a un an, quand on a fait notre sondage sur l'information, c'était coup-ci, coup-ça. Hein?
Les gens se plaignaient même. Hein?
C'était la moitié de la population qui nous avait répondu dans le sondage Somme-Cogeco il y a un an être assez bien informé ou très bien informé. Mais quand tu vas dans le détail de la question posée par Segma pour le compte de GNL, on se rend compte qu'il inclut ceux qui se disent assez peu informés dans le calcul.
Oh, OK.
Moi, j'ai tasse, là.
Ben oui.
Tu sais, c'est 28 % la réalité qui se dit très bien ou assez bien. Donc, c'est une chute comparativement à l'an passé.
Tu veux dire qu'il y a des questions qui se sont soulevées au travers du temps puis qui ont fait douter des
là,
gens.
Là, les gens se sentent plus informés comme du
là,
monde.
Là, les gens se disent « Oh boy, OK, non, ça, je savais pas. Là. Ça, on me l'a pas dit. » Ou ça.
Je veux dire, d'avoir inclus les assez peu informés.
Spécial, pareil. Hein?
Pour qualifier quelqu'un d'informé, je trouve ça un peu limite. Maintenant, ça, c'est intéressant. L'opinion sur la réalisation du projet. Votre position face au projet Énergie Saguenay tel que présenté au BAP. Les gens sont favorables à la réalisation du projet à 52,3 %, mais potentiellement favorables, mais à certaines conditions, c'est 32,7 % des répondants.
Ouais, mais là, quelles sont les conditions?
Dans le segment. Bien, des conditions environnementales. Puis ça mène à l'autre question que je voulais absolument te parler. C'est les conditions d'acceptation du projet.
OK.
Quelles sont vos conditions d'acceptation du projet? Que les impacts environnementaux soient limités ou acceptables, c'est la moitié des répondants qui ont dit que c'était en haut de leur liste. Le deuxième point, c'est que le projet ait des impacts positifs sur l'emploi et l'économie à 13,2 %. Puis après ça, ça baisse sur des grenailles.
Donc, ils veulent que ce soit le plus possible éco-responsable puis que ça donne des jobs.
C'est ça l'enjeu.